Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde. Le Musée national de l'histoire de l'immigration au Palais de la Porte Dorée à Paris propose depuis cette semaine une riche exposition immersive Paris-Londres 1962-1989, Music Migration, qui illustre à merveille tout ce que musicalement Paris et Londres doivent à leurs anciennes colonies. De 1962 donc, date de l'indépendance algérienne, jusqu'en 1989, date de la célébration du bicentenaire de la Révolution française, en trois décennies, comment la musique populaire française et britannique ont été nourries par ces sons venus. D'ailleurs, c'est l'exposition que je vous recommande. Vous avez le temps, c'est jusqu'au 5 janvier, mais si vous n'habitez pas Paris, si vous devez être appelé à passer par la capitale française, surtout, ne ratez pas cette exposition.
Le réveil culturel. Mardi, Expo.
5 janvier 2020, bien entendu. Et avec moi pour parler de cette exposition Paris-Londres 1962-1989, deux des commissaires d'exposition. On va commencer par Angeline Escarfé-Dublé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes de Paris. Et Martin Evans, vous êtes anglais hein, et vous avez vécu très longtemps à Londres.
Oui, surtout dans le quartier de Brixton, ça c'est qui est un quartier très important dans l'exposition. Hein.
Absolument, on va en parler. Et vous êtes tous les deux historiens, on peut le dire. Histoire de l'immigration.
Et histoire contemporaine. Hein.
Histoire contemporaine. Alors, cette exposition, c'est une exposition où on va voir des documents, on voit beaucoup de documents, des archives, on écoute beaucoup de musique, et puis bien sûr, il y a des objets, comme dans chaque exposition, dans un musée. Alors, l'idée de départ, c'était quoi? C'était de dire qu'on a tourné une page, celle de la colonisation?
Non, le point de départ, c'était de mettre ensemble deux villes globales.
Paris et Londres, donc.
Paris-Londres, juste après la fin de leurs empires. Et ça, c'était pour la première fois, vraiment, de mettre ensemble les deux villes globales comme un type de montage, de voir comment les deux histoires complexes sont différentes et comment, à quel point ces deux histoires se ressemblent. Donc ça, c'est l'idée fondamentale. C'est une démarche comparative.
Et surtout, ce qui nous a intéressé, c'était d'utiliser donc la musique pour raconter une nouvelle histoire du rôle des vagues migratoires à transformer ces deux villes. Donc, ils passent donc de deux anciennes capitales d'empire à devenir ces métropoles internationales qui aujourd'hui mettent énormément en avant leur diversité culturelle. Et une des choses qui nous a frappé, c'est que Londres, comme Paris, ont argué qu'elles étaient des villes de la diversité pour gagner les Jeux Olympiques.
C'est très optimiste, hein, cette exposition. Hein. C'est-à-dire, ça commence par, c'est la période des yéyés. D'ailleurs, ça commence comme ça, pour dire à quel point c'était très centré sur la culture, soit sur la culture locale, soit sur la culture américaine. Et ça se termine en disant, voilà, dans la variété française, dans la variété anglaise, toutes les influences qui sont venues de ces pays qui étaient des anciennes colonies. Et Martin Evans, ce n'est pas tout à fait d'accord avec moi, je pense.
Non, c'est important de souligner, on a commencé avec une émission de la BBC sur le scar de Jamaïque. Donc ça, c'est vraiment dans l'image optimiste de l'indépendance de Jamaïque, qui est en même temps que l'Algérie. Donc ça, c'est pourquoi on a choisi 62 comme le point de départ. C'est de faire un pont entre les Algériens et les Jamaïcains. Par exemple, pour les Jamaïcains, personne n'est plus rebelle que des Jamaïcains. C'est vraiment une culture qui est fière de ce côté rebelle, et on voit ça à travers la musique avec le reggae, le sound system. Mais au début, ça montre l'aspect optimiste de l'indépendance avec le ska qui avec beaucoup d'énergie. Donc, on commence avec un film qui est filmé à Kingston, à Jamaïque, dans une boîte de nuit célèbre, le Sombrero. Et ça montre les connexions à travers des espaces.
Et comment ces musiques, qui vont être très longtemps des musiques pour communauté, c'est des musiques communautaires, vont avoir petit à petit, progressivement, leur place dans la culture des deux pays que sont la France et l'Angleterre?
Moi, je dirais pas que on a été complètement dans un monde idéal avec cette histoire des musiques. Au contraire, ce qu'on a quand même essayé de montrer, c'est à quel point il y a un lien entre musique et politique. Parce que ce qu'on a voulu montrer, c'est le rôle de la musique à venir renforcer les combats politiques et cette relation un peu dialectique entre musique et politique. C'est-à-dire que la politique prend plus d'ampleur avec la musique, mais la musique prend aussi plus de force avec les messages politiques qu'elle peut convoyer.
En 1964, on ne dit pas encore World Music. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre là ?
Ça, c'est le point de
Martin Evans.
Oui, c'est un point de vue d'une histoire multiculturelle. On voit ça à travers cette chanson. C'est vraiment un point de départ capital pour moi. Donc voilà, voilà.
Alors explique-nous pourquoi.
Parce que à travers cette chanson, on voit l'influence caribéenne. Des Caraïbes.
Le nom de la chanteuse.
C'est Malissimon. Et cela veut dire comment cette influence musicale est en train de s'ancrer dans le paysage britannique d'une façon décisive. Donc c'est ça qui est très important. Et dans le catalogue, on raconte comment très jeune, c'est Paul Gilroy qui est maintenant un intellectuel très 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 important sur le postcolonialisme. Il montre pour sa famille, c'était une chanson quoi, qui montre l'impact de leur propre culture sur le mainstream.
C'est la seule chanson qui atteint les charts pendant britannique en 1964 et qui donc reflète cette possibilité pour les musiciens jamaïcains puis caribéens à atteindre. Et c'est un peu la seule aussi.
Angélique,
c'est l'exception qui confirme la règle.
Est-ce qu'un Fred Dublé, mais surtout pourquoi ça va avoir beaucoup de succès? C'est pour ça que j'ai utilisé le terme de world music qui n'apparaît pas dans les années 60. On le verra apparaître après, notamment avec des médias comme Actuel et Radio Nova, très présents d'ailleurs dans cette exposition Paris-Londres 1962-1989. Mais parce que c'est quand même un morceau qui va être produit par Chris Blackwell, le fameux Chris Blackwell qui va tant faire pour la musique du monde. Et le reggae et Bob Marley, parce que il y a quand même une différence, et des fois dans cette exposition on se perd un peu entre les musiques qui viennent des pays d'origine, c'est-à-dire les musiques produites en Afrique du Nord, en Afrique, en Jamaïque ou bien au Pakistan, et les autres musiques avec des interprètes, des musiciens de ces pays-là mais qui vivent déjà soit en France soit en Angleterre et qui vont être produits suivant les normes des deux pays qui les accueillent.
Mais ça c'est une histoire très complexe. Il y a un autre exemple qu'on peut donner peut-être, c'est la chanson des Beatles, Obladi Oblada. Donc ça c'est une vraiment chanson ska. C'est une chanson ska sur le White Album qui est sorti en 1968. Mais le titre vient du musicien qui était présent à Londres depuis longtemps, Jimmy Scott, qui était ami avec Paul McCartney. Obladi, oblada, cela veut dire en Yoruban, so it goes. Donc on voit comment cette musique est en train de influencer les courants musicaux en Grande-Bretagne comme les Beatles d'une façon décisive.
Comment ils sont influencés? Parce que ça passe déjà sur les ondes de la BBC, ces musiques qui viennent d'ailleurs, de Jamaïque.
Mais on voit ça dans des lieux, dans les boîtes de nuit. Par exemple, il y a une série de boîtes à Londres, à Soho, comme le Flamingo, dans le Q Club, qui là où on avait un des premiers DJ de Jamaica, Count Circle, qui introduit un sound system. Et ça, c'était un lieu de rencontre qui était fréquenté par Paul McCartney. C'est là où il a rencontré Jimmy Scott. Et c'est ça qui est important dans l'exposition, de montrer les espaces intimes comme ça.
Ces espaces-là n'existent pas en France dans les années 60. Hein, c'est-à-dire les musiques maghrébines ou africaines restent contenues dans les quartiers, dans les foyers Sonacotra, dans les cafés soit maghrébins, soit africains.
Alors c'est effectivement l'histoire qu'on essaie de raconter dans cette exposition, c'est à quel point au départ les immigrés sont peut-être dans les marges, se sont installés aux interstices dans les interstices de la ville, qui sont les endroits les plus accessibles pour eux, qui coûtent le moins cher, et c'est là que vont qui vont effectivement se regrouper et créer des lieux de musique qui leur sont propres. Mais l'histoire qu'on raconte, c'est pour ça qu'on immerge, on essaie de rendre l'exposition immersive pour le visiteur en le plongeant dans des atmosphères différentes, les années 60 d'abord, mais ensuite les années 70 et les années 80. Donc les années 70 vont être un moment de rencontre, notamment autour du militantisme et ces interconnexions, enfin ces rapports amis, effectivement ils se rencontrent dans des lieux de musique mais aussi dans des lieux militants, et donc l'exemple qu'a donné Martine avec certains clubs où les Beatles rencontrent d'autres musiciens, on le retrouve à d'autres périodes. Dans les années 70, on a en particulier une interface entre le reggae, le ska et le mouvement punk qui est forte, avec des amitiés qui est forte aussi en France. Alors si c'est vrai que l'exposition est foisonnante et il y a peut-être un panneau qui vous a échappé, mais on a reproduit à quel point il y avait ce genre de connexion en France au niveau de la scène punk et autour de ce mouvement squat de la fin des années 70, début des années 80, autour du le squat Palikao, qui était donc sur la rue Palikao, dans le nord-ouest de Paris, où habitaient il y avait des foyers africains dans la même rue, et aussi des jeunes groupes de punk qui se formaient dans ces squats. Et vous diront qu'ils allaient manger au foyer africain parce que ça coûtait moins cher. On se retrouve dans ces moyens populaires de vie, de sociabilité, et aussi sur la contestation d'un ordre établi. Parce que d'un côté comme de l'autre, on conteste un racisme qui peut être présent, des relations difficiles avec la police, parce qu'on est punk ou parce qu'on est immigré.
Caminho como aquilo em Jesus, Jube sola como aqui massim, Jube choba como aqui tá chobe, Minka medi mamá, Minka medi arca na medi, Minka medi mamá, Minka medi arca na medi. Si vous cabez la bra, falang que kubuna kume. Si vous cabez la bra, nyamai, falang que kubuna kume. Si vous cabez pisco, falang que kubuna kume. Si vous cabez pisco, papay, que kubuna kume.
Tant pis si vous n'étiez pas né dans les années 80, tant pis si vous avez raté Paris, capitale des musiques du monde et des musiques africaines, particulièrement Youssou N'Dour ou, comme maintenant, Touré Koundé qui chante Labrador avec dans cette exposition Paris-Londres 1962-1989 actuellement au Palais de la Porte Dorée. On peut même avoir la partition de la chanson Labrador. Mes deux invités qui sont les deux co-commissaires de cette exposition, Martin Evans et Angeline Escaffé-Dublé.
Ce qui est important dans l'exposition, c'est d'éviter les clichés. Donc l'idée que pendant les années 60, il y a une présence des immigrés entre guillemets à Londres qui est visible et clair, qui n'est pas le cas à Paris. C'est pas vrai.
Parce
on a par exemple l'exemple de Paul Vigan, c'est le James Brown marocain. Lui, il est visible. C'est et puis on a
plein d'autres. Il est d'autant plus visible qu'il ne chante pas en arabe, hein. Parce qu'il chante en anglais.
Il chante en anglais.
Et puis
il y a Jacqueline Taieb comme ça. Et donc ça, c'est à mon avis, c'était une découverte à travers les recherches pour l'exposition, à quel point ces chanteurs maghrébins avaient une visibilité à Paris en même temps peut-être en train de nier le racine maghrébine en même temps. C'est ça qui est peu plus complexe.
Ce qui est complexe, c'est qu'à un certain moment, il va y avoir des boutiques de musique en France, comme en Angleterre, où les populations immigrées vont aller acheter les musiques de leur pays d'origine. Et puis, à un certain moment, ça bascule, ces musiques-là vont être produites ici, en France ou en Angleterre. On n'a pas le même son, on n'a pas la même intensité, et on est passé à autre chose, c'est-à-dire à l'intégration de ces musiques.
Ce qu'on voudrait quand même surtout montrer, c'est à quel point à Paris et à Londres se créent des styles de musique originaux qui sont des emprunts à la fois à ces pays d'origine, mais qui sont produits, que ce soit à Paris et à Londres, et qui, donc, on parlait de Millie Small qui est masterisée donc, par Chris Blackwell, alors, évidemment ça modifie un peu le son. Et on a essayé aussi renouveler cette évocation. On a parlé on a beaucoup parlé dans d'autres expositions des cafés arabes qui sont présents en France dans les années 60. On a essayé de montrer à quel point un café arabe à Paris, c'était pas la même chose qu'à Alger. Ouais, il y avait aussi
absolument.
Une influence de la façon dont on tournait les clips vidéo qui étaient
les
différentes.
Les Scopitones, les fameux Scopitones. Mais ça, c'est une histoire extraordinaire, les Scopitones de Denise Boyer, parce que d'abord les Scopitones allaient s'arrêter, hein, c'est-à-dire avec l'arrivée des chaînes de télévision. Ils allaient s'arrêter. Et quand ils commençaient à enlever des cafés parisiens, les Scopitones, c'est là où les vendeurs de cassettes d'un quartier arabe à Paris, à Barbès, pour le nommer, ont demandé à pouvoir récupérer cette technologie pour enregistrer et faire des Scopitones d'artistes qui étaient tout à la fois d'origine maghrébine, mais qui ne pouvaient pas enregistrer ce genre de chansons, de musique, de clips, puisque les Scopitones, c'est l'ancêtre du clip dans leur pays d'origine. Donc là, on passe quand même à une autre étape. Et ça, l'exposition le montre bien.
Qu'ils auraient enregistré, probablement de manière aussi différente. L'idée, c'est de dire que dans des lieux comme Paris et Londres, on crée des formes qui sont originales à ces lieux-là, qui, parce qu'elles reflètent l'expérience de l'exil, de l'immigration, parce qu'elles reflètent l'expérience des fois de seconde génération. On parle aussi d'un style de musique qui émerge à Londres, le Lovers Rock, qui est une qui n'existe qu'à Londres, qui est influencé par le reggae, et qui est porté par cette seconde génération issue d'immigration caribéenne à Londres, et qui ensuite donnera le R&B. C'est vraiment voir comment Paris et Londres sont des creusets de nouvelles musiques, et effectivement, on a une présentation, une mise en visibilisation des identités de groupe qui est plus aisée dans le contexte britannique qu'en France, qui peut donner cette impression de styles musicaux qui fleurissent de manière plus aisée en Grande-Bretagne qu'en France, ou à Londres qu'à Paris. Mais nous, ce qu'on essaie de montrer dans cette exposition, c'est que c'est beaucoup plus complexe, qu'il y a une série de facteurs qui peut expliquer. Par exemple, le carnaval de Notting Hill est très important à Londres et arrive peut-être 10 ans avant qu'il y ait des manifestations équivalentes en Paris. Mais c'est parce que il y a une occupation de l'espace qui n'est pas la même qu'à Paris, où c'est mai 68 qui joue le rôle de déclencheur. Tout un ensemble de facteurs de contexte qui montrent qu'on peut pas juste dire c'est parce que c'est pas pareil Paris et Londres. En fait, on se rejoint sur beaucoup de points.
Oui, à Londres, il y a aussi l'aspect commercial, parce qu'au Jamaïque, on a le lancement de reggae en 1968, et par la suite, il y a une maison de disques basée à Londres, Trojan, qui lance toute une série de disques de reggae à Londres, qui a un impact énorme à Londres sur le mouvement skinhead. Au début, le mouvement skinhead était très influencé par le look jamaïcain et par la musique jamaïcaine. Très
et
important.
Par un d'entre eux, El Kaji. England is a bitch, 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 bitch. England is a bitch, bitch, bitch. When me just come to London town, me used to work on the underground. But working on the underground, you don't get to know your way around. England is a bitch. There's no escaping it. England is a bitch. There's no running away from it. Me get a little job in a big hotel, and after a while me was doing quite well. Them start me off as a dishwasher, but when me take a stock, me no turn clock watcher. England is a bitch. There's no escaping it. England is a bitch. Nobody try fi hide from me. When them give you the little wage packet, force them rabbit with them big tax racket. You have to struggle fi make ends meet.
And when you pour your bed, you just can't sleep.
Paris, Londres, 1962-1989, c'est l'exposition, une exposition où il y a plein de choses à écouter, à voir, et puis une déambulation pour voir comment ces musiques venues des anciennes colonies ont changé la variété, les variétés populaires de France et d'Angleterre. Même, est-ce qu'aujourd'hui d'ailleurs, puisque je suis aussi bien avec deux commissaires d'exposition, mais surtout des historiens de l'histoire de l'immigration, à savoir Angéline Escaffré-Dublé et Martin Evans, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que c'est une histoire acquise, que tous les sons de ces colonies ont trouvé leur place dans l'univers de la pop, soit de France, soit d'Angleterre?
À Londres, c'est clair, parce que on a depuis 1968, c'est le reggae et l'impact des sound systems, surtout à travers le carnaval de Notting Hill, à partir au milieu de 1974. Et dans un sens, maintenant, avec la musique, la scène musicale à Londres, maintenant, le reggae, le sound system, c'est toujours un point de départ. Comme le grime, par exemple, comme le trap. Donc, cela veut dire que nous, on a montré...
Angéline Escaffré-Dublé, j'ai l'impression que Martin Evans est en train de dire que les Anglais sont beaucoup plus avancés que nous. Ils ont vraiment intégré. Est-ce que vous direz la même chose pour vous?
Non, moi, je pense que ce qu'on essaie de montrer dans l'exposition, c'est d'abord tout ce qu'on doit, tout ce que nos musiques actuelles doivent à ces apports, qu'on connaît pas toujours. Bon, ça, c'est un peu quand on est historien de l'immigration, quelque chose auquel on est confronté souvent, c'est de faire connaître les apports de l'immigration qui sont pas forcément toujours connus. Et donc, voilà, on veut montrer ses ressorts, ses origines, cet héritage dont les musiques actuelles sont porteuses, à quel point aussi ces musiques doivent au combat. Ça n'a pas été facile pour beaucoup des artistes qu'on évoque. D'ailleurs, on fait connaître des figures qui ne sont pas forcément connues. Et puis, ce qu'on veut montrer, c'est qu'aujourd'hui, des fois, on a l'impression que tel style de musique est chouette et on ne sait pas à quel point ce style de musique est lié au combat, à des parcours d'artistes, et que sans les cultures des autres et les musiques des autres, notre musique serait ennuyeuse.
C'était ça le fil conducteur pour vous, pour cette exposition autour de la musique? C'est au palais de la Porte Dorée, donc au musée de l'histoire de l'immigration. C'est beaucoup plus le caractère politique, des revendications politiques des immigrés?
Nous, on a voulu vraiment construire une mise en visibilisation d'une histoire. C'est-à-dire que une histoire qui n'est pas forcément connue de cette contribution aux musiques qui sont produites dans chacun des pays à travers ces 30 ans, 3 décennies. Et à quel point la musique a servi à ces groupes à se rendre visibles.
Les ronrons et la trompe. J'que les gueules, j'que les gueules. Les galouches. J'que les gueules, j'que les gueules. Les ronrons et la trompe. C'est ma vie à rouille. C'est la ronron money. La ronron money. Danse d'aujourd'hui. Yeah, danse d'aujourd'hui.
Rachid Taha et carte de séjour. Pour illustrer vos propos, Angéline Escaffré-Dublé, on aurait pu passer pour le côté anglais-asien Dub Foundation. C'est une exposition que je vous recommande. Moi, je la trouve plutôt très optimiste, hein, parce que vous ne parlez pas de la fin, de ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu en Angleterre ce qui se passe un peu en France, c'est-à-dire depuis les attentats du 11 septembre? C'est vrai qu'il y a de moins en moins de musique arabe, africaine, venue des anciennes colonies qui sont diffusées sur les ondes de la radio. Et ça, on se rend compte d'ailleurs en déambulant dans les années 80-90, quand on voit tout ce que ça a fait au niveau des médias, au niveau même de l'industrie du disque, avec des chanteurs, des groupes qui vendaient beaucoup, beaucoup de disques. Est-ce que aujourd'hui, vous vous dites que c'est une histoire qui a été stoppée, qui a été contrariée un peu par tous les événements, ou pas du tout?
C'est les années 80 qui sont optimistes. Elles sont surtout optimistes en France. On avait une espèce de parenthèse dorée où on avait une valorisation de la différence qui était possible. Et ça, en histoire des politiques d'immigration, on est couramment confronté à cette fin de cette parenthèse à la fin des années 80, avec une montée du Front National et des scores qui sont de plus en plus importants. Il faut savoir que dans les années 80, en Angleterre, c'était quand même les années Thatcher et c'était pas facile. Et je suis pas sûre que notre exposition est peut-être optimiste parce qu'on veut être optimiste, mais les années 70 apparaissent quand même comme des années difficiles. Les gens se sont retrouvés dans le militantisme, et ce qu'on voudrait montrer, c'est à quel point la musique, de ce point de vue-là, est un refuge, mais l'arme devait être à la mesure du combat qu'ils avaient à mener, parce que comme vous auriez peut-être constaté, c'était difficile d'être un immigré ou un enfant d'immigré, que ce soit à Paris ou à Londres. Par contre, ce qu'on veut dire aux générations futures, c'est qu'il faut rester ensemble et que la musique peut vous servir, parce que je pense pas que les combats sont terminés.
C'est pas une histoire achevée. Ce qui est important dans l'exposition, on en montre, à mon avis, à quel point les deux villes globales, Londres et Paris, se ressemblent. Donc, cela veut dire peut-être Londres et Paris comme deux villes avec beaucoup plus en commun, peut-être que Londres et Stoke, ou Paris et Valenciennes. Donc ça, c'est très important, l'idée d'une identité multiculturelle dans les deux villes, comme un point de départ.
Paris-Londres, 1962-1989, musique, migration. C'est l'exposition qui a lieu en ce moment au Musée national de l'histoire de l'immigration à Paris, dans le 12e, au palais de la Porte Dorée. Merci aux deux commissaires et historiens d'être venus nous en parler ce matin, c'est-à-dire Angéline Escarfé-Dublé et Martin Evans, merci beaucoup d'être passé.
Merci beaucoup, Shukran.
Brixton Prison, Jebabiman, London Southwest 2, England.